Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation. Le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chères femmes, bien, chers amis, donc nous sommes en train de terminer la partie de la Somme écrite par saint Thomas. Nous en sommes donc dans ce traité sur la pénitence, le sacrement de pénitence, dont saint Thomas d'Aquin a écrit, je vous l'ai dit la dernière fois, que les six premières questions, les questions 84 à 90, donc cette première question. Nous en sommes à l'article 5 de la question 86. Donc la question 86, dont le titre est de la rémission des péchés mortels. Alors saint Thomas se pose la question maintenant de savoir si la pénitence laisse subsister des restes de péché. Il est évident que le sacrement de pénitence et la vertu de pénitence, les deux, ne vont pas enlever les concupiscences. Les blessures du péché originel restent malgré l'usage des sacrements, malheureusement. Et donc, on aura toujours à lutter contre les conséquences du péché originel en nous, même après le baptême. Si le baptême enlève le péché originel, le baptême n'enlève pas les blessures du péché originel. Nous avons toujours à lutter contre, entre autres, les concupiscences. Et donc, la concupiscence des yeux sera toujours là, concupiscence de la chair, l'orgueil de la vie, ainsi que la malice, la faiblesse et l'ignorance. Toutes les blessures du péché originel sont là. Alors, saint Thomas, justement, répond avec pertinence à cette question. Il nous dit: après le premier pardon de la faute, par lequel le pécheur est rendu à la vie spirituelle, il y a encore en lui des restes du péché passé. Hein, c'est ce que saint Thomas appelle le fomex peccati, le foyer de péché. C'est, dit-il, l'état d'aversion de l'âme envers Dieu, aversio ad Deo, conversio ad creatura. C'est la définition du péché grave selon saint Thomas. Aversio ad Deo, se détourner de Dieu. Conversio ad creatura, c'est pour se convertir vers l'homme, vers la créature. Comme la créature est quelque chose de fini, eh bien, il y a une conséquence finie du péché. C'est la peine temporelle. Et comme le péché mortel a quelque chose d'infini, l'aversion envers Dieu, quelque chose d'infini, il y a donc une peine infinie qui est la peine même du péché mortel. Donc, c'est l'état d'aversion de l'âme envers Dieu qui est supprimé par la grâce dans la rémission du péché mortel. Le péché mortel va donc supprimer l'état de grâce et donc l'état de charité. Mais cette disparition de l'état d'aversion n'empêche pas que puisse demeurer ce qui vient du désordre de la conversion au bien qui passe, puis cette conversion peut exister indépendamment de l'aversion. Rien ne s'oppose donc à ce que les dispositions causées par les actes antérieurs, appelés restes du péché, demeurent après le pardon de la faute. Elles ne demeurent cependant qu'affaiblies et diminuées, telle sorte qu'elles ne dominent plus l'homme. Elles n'agissent plus à la manière de véritable habitus, mais plutôt comme de simples dispositions, comme fait le foyer du péché qui reste après le baptême. Oui, c'est ici que saint Thomas utilise ce terme de foyer de péché. Et donc, même si on se confesse régulièrement, même si on fait pénitence de façon habituelle, eh bien, le combat demeure. Pourquoi ? Parce que la vie spirituelle, c'est un combat spirituel, et ce combat spirituel s'arrêtera au moment où on rentrera au ciel, pas avant. Là, il y a des phrases splendides dans ce traité. Voilà ce que dit saint Thomas un peu plus loin. Quelquefois, l'ébranlement subi par le cœur de l'homme dans sa conversion est si puissant qu'il retrouve subitement une parfaite santé spirituelle. Dans ce cas-là, non seulement la faute est remise, mais tous les restes du péché disparaissent, comme on le voit dans le cas de Sainte Marie-Madeleine. D'autres fois, au contraire, la faute est d'abord remise par la grâce opérante, puis la grâce coopérante fait disparaître peu à peu les restes du péché. Je vous l'ai dit, ça dépend beaucoup de l'usage de notre libre arbitre et la grâce du bon Dieu. Dans le cas de conversion, de confession très bien préparée, par exemple, je vous ai déjà donné l'exemple parce que je le vois souvent dans les exercices de Saint-Ignace, des conversions qui ont été longuement préparées par toutes les méditations de première partie des exercices, de première semaine, eh bien, lorsque les personnes font une bonne confession générale d'une partie de leur vie, toute leur vie, nous le disent souvent, ils disent, monsieur l'abbé, c'est la meilleure confession de ma vie. Eh bien, le bon Dieu, en quelque sorte, pour remercier, pour récompenser ceux qui ont fait l'effort de garder le silence déjà pendant 2 jours et demi pour se préparer à cette confession générale, eh bien, le bon Dieu ôte non seulement le péché, mais il ôte aussi la peine temporelle due au péché, parfois en totalité. La pénitence enlève-t-elle le péché en tant qu'elle est vertu ou en tant qu'elle est sacrement? Bon, comment donc opère le sacrement de pénitence? Voilà comment va répondre saint Thomas. Donc nous sommes dans la question 86, article 6. Donc Dieu, dit-il, peut remettre la faute sans le sacrement, mais non sans la pénitence en tant que vertu. Donc la vertu est nécessaire pour que Dieu, la vertu de pénitence, l'esprit de pénitence, on peut dire, est nécessaire pour que Dieu puisse remettre la faute. La rémission de la faute est donc principalement l'effet de la vertu de pénitence. Il est évident, dit saint Thomas, que la rémission de la faute, tout en étant l'effet de la pénitence vertu, de la vertu de pénitence, l'est primordialement davantage de la pénitence sacrement. En fait, les deux choses travaillent ensemble. La vertu de pénitence amène, prépare le sacrement de pénitence. La rémission de la faute ne se produit donc pas sans un acte de la vertu de pénitence, bien qu'elle soit un effet de la grâce opérante. C'est la grâce qui est cause principale de la rémission de la faute, plus encore que le sacrement de pénitence. Le sacrement de pénitence, c'est en quelque sorte que l'empreinte finale, c'est du travail de la grâce. Mais c'est le travail de la grâce qui fait tout, qui prépare le terrain. Si Dieu ne donne pas sa grâce pour amener l'âme au confessionnal, si Dieu ne donne pas sa grâce pour préparer l'âme du pécheur à la repentance, eh bien la confession vaut rien. Nous arrivons maintenant à la question 87 sur la rémission des péchés véniels. Donc il y a là 4 articles, et dans l'article numéro 1 de la question 87 de la Tertia Pars, saint Thomas d'Aquin se pose la question de savoir si le péché véniel peut être remis sans la pénitence. Alors il y a des parties magnifiques ici. Voilà ce que dit saint Thomas. Donc il cite d'abord saint Augustin, qui dit qu'il y a une pénitence quotidienne dans l'Église pour les péchés véniels. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que la vertu de pénitence enlève les péchés véniels, au moins une partie d'entre eux. La rémission de la faute se fait toujours par l'union de l'homme avec Dieu, dont la faute nous sépare plus ou moins. Donc, chaque fois qu'on commet un péché, on se coupe de Dieu. Cette séparation est complète dans le péché mortel, mais incomplète ou imparfaite dans le péché véniel. Pourquoi? Parce que le péché véniel ne coupe pas l'âme de la grâce sanctifiante. Au contraire, dans le péché mortel, l'esprit est complètement détourné de Dieu puisqu'il agit en contradiction avec la vertu de charité. Quant au péché véniel, il retarde l'élan de notre cœur, l'empêchant de se porter volontiers vers Dieu. C'est pourquoi la rémission de l'un et l'autre péché se fait par la pénitence, parce que l'un et l'autre mettent dans la volonté le désordre d'un attachement immodéré au bien créé. Cependant, encore une fois, le péché véniel n'enlève pas la vertu de charité. Pour cela qu'une personne qui est en état de péché véniel peut communier. Alors que si elle est en état de péché mortel, il faut d'abord bien sûr qu'elle se confesse. De même, dit saint Thomas, que le péché mortel ne peut pas être remis tant que la volonté adhère au péché, le péché véniel ne peut pas l'être non plus pour le même motif, parce que tant que la cause persiste, l'effet demeure. Cependant, la rémission du péché mortel exige une pénitence plus parfaite. Le péché mortel habituellement est effacé par l'absolution sacerdotale, alors que le péché véniel peut être effacé beaucoup plus facilement par n'importe quel acte de pénitence, même un acte de pénitence minime, comme par exemple faire le signe de croix en rentrant dans la chapelle avec l'eau bénite. C'est déjà un sacramental, c'est pas un sacrement, mais c'est un sacramental qui peut enlever certains péchés véniels. voire même tous les péchés véniels, si on le fait avec beaucoup d'amour du bon Dieu. Il s'ensuit donc qu'il faut au moins un certain déplaisir virtuel pour pouvoir espérer être pardonné de ses péchés véniels. Mais la phrase importante, elle est là. La rémission du péché mortel exige une pénitence plus parfaite. L'homme, en état de grâce, dit saint Thomas, peut éviter tous les péchés mortels et chacun d'eux en particulier. Il peut aussi éviter chaque péché véniel en particulier, mais non pas tous. Donc pour éviter tous les péchés véniels, vraiment des grâces toutes particulières. Même d'ailleurs, on peut dire que l'homme en état de grâce, si l'homme en état de grâce peut éviter tous les péchés mortels, et chacun d'eux en particulier, c'est précisément par la grâce du bon Dieu. Et de façon naturelle, par ses propres forces naturelles, l'homme ne peut pas éviter tous les péchés véniels, et même on peut aller jusqu'à dire que l'homme, par ses propres forces, n'est pas capable d'éviter tous les péchés mortels, et chacun d'eux en particulier, justement à cause du fait que le péché originel a marqué en profondeur chacune des puissances de nos âmes. Donc, que ce soit l'intelligence, la volonté, les racines, le concupiscible, tout ça est tellement marqué par le péché originel qu'il y a les blessures du péché originel qui sont là, même pour les gens baptisés. Donc, pour la pénitence des péchés véniels, il est bien requis que l'homme forme la résolution de s'abstenir de chaque péché, mais non pas de tous. Notre faiblesse en cette vie ne nous permettant pas une telle perfection. Il faut cependant avoir la résolution de se préparer à diminuer les péchés véniels, autrement on s'exposerait à tomber, n'ayant pas le désir de progresser, d'enlever ces obstacles à l'avancement spirituel que sont les péchés véniels. Donc quelqu'un qui garderait l'amour des péchés véniels, le désir des péchés véniels, qui ne chercherait pas à effacer ses péchés véniels, ouvre la porte aux péchés mortels, c'est certain. À l'article 2 de la question 87, encore un article important, saint Thomas se pose la question de savoir si le péché véniel peut-il être remis sans infusion de grâce. Le péché véniel, dit saint Thomas, qui survient, ne chasse pas la grâce sanctifiante, elle reste là et même ne la diminue pas. Il s'ensuit que pour la même raison, la rémission du péché véniel n'existe pas l'influence d'une grâce nouvelle. Ici, il parle de grâce sanctifiante, la grâce habituelle. Le péché véniel n'est pas contraire à la grâce habituelle ou à la vertu de charité. Grâce habituelle, vertu de charité, grâce sanctifiante, c'est un peu la même chose. Il ne fait que ralentir l'activité de cette charité en tant que l'homme s'attache trop au bien créé, mais sans se mettre en opposition avec Dieu. On utilise souvent une comparaison pour les enfants. On dit qu'un péché mortel, imaginez un miroir sur lequel on se regarde, le péché mortel brise le miroir, on ne voit plus rien. Parce que le miroir est brisé, en tout petit morceau, on ne voit plus rien. Au contraire, le péché véniel, le miroir est intact, mais il y a comme un, si vous voulez, qu'on vient de souffler sur un miroir, donc le miroir est couvert par un voile, en quelque sorte, d'humidité, qui cache la lumière, qui cache l'image. Cependant, le miroir est toujours là. Pour que le péché véniel soit enlevé, il n'est donc pas nécessaire qu'il y ait infusion d'une grâce habituelle, mais un mouvement actuel de la grâce ou de charité suffit à sa rémission. Donc tout mouvement de la grâce, même pas forcément la grâce habituelle, mais des petites grâces que le bon Dieu nous donne à longueur de journée peuvent suffire à effacer les péchés véniels. Il n'y a pas infusion de grâce sans un mouvement actuel de libre élan vers Dieu, de libre détestation de péché. Il s'ensuit qu'il y a une rémission de péché véniel à chaque nouvelle infusion de grâce. Donc, quand vous communiez un état de péché véniel, ou quand vous communiez sans péché mortel sur la conscience, il est évident que la Sainte Communion, la Sainte Eucharistie, va augmenter la grâce sanctifiante en nous. Et donc, va éliminer, par ce fait même, les péchés véniels, ou au moins une partie d'entre eux. La rémission des péchés véniels est donc toujours un effet de la grâce, mais par l'acte que la grâce produit de nouveau, et non joint par une nouvelle infusion dans l'âme d'une disposition habituelle. Le corps, c'est encore des parties magnifiques de la somme, le corps peut recevoir une tâche de deux façons, ou bien par la privation de ce qui exige sa beauté, de la couleur qui lui convient par exemple, de la proportion que doivent avoir ses différentes parties, ou bien par l'adhérence d'un corps étranger, par exemple de la poussière ou de la boue qui empêche le rayonnement de sa beauté. Il en va de même pour l'âme. Elle peut être souillée de la première façon par la privation de la beauté de la grâce qu'enlève le péché mortel, ou de la seconde façon par une inclination d'affection désordonnée pour quelque bien temporel. C'est ce que fait le péché véniel. Il s'ensuit que pour enlever la souillure du péché mortel, il faut l'infusion de la grâce. Mais pour enlever la tache du péché véniel, il suffit d'un acte procédant de la grâce qui supprime la tache désordonnée au bien temporel. Pour reprendre l'exemple que je vous ai donné, donc le péché mortel a brisé le miroir, donc il faut un nouveau miroir que le bon Dieu va nous donner par la confession. Par contre, si le miroir de mon âme est simplement couvert par l'humilité du péché véniel, il suffit de prendre un chiffon, de frotter le miroir, l'humilité s'en va et le miroir va de nouveau me donner l'image de mon âme. Donc il faut faire attention, si vous voulez, pour notre âme, de maintenir ce qui fait sa beauté et d'empêcher l'adhérence d'un corps étranger. La poussière et la boue dont parle saint Thomas, qui empêche le rayonnement de sa beauté, bien, c'est tout simplement le péché véniel par lui-même. Article 3. Les péchés véniels sont-ils remis par l'aspersion de l'eau bénite et autres pratiques du même genre? Sont-ils remis par l'usage des sacramentaux? La rémission du péché véniel, dit saint Thomas, n'exige pas l'infusion d'une grâce nouvelle, on l'a déjà dit, mais a pour cause suffisante l'acte procédant de la grâce par lequel on déteste le péché véniel explicitement, ou du moins implicitement, comme il arrive dans un fervent élan de l'âme vers Dieu. Donc les divers actes qui produisent la rémission des péchés véniels peuvent donc agir de trois façons. Bon. Soit en opérant une infusion de grâce, puisque cette infusion enlève les péchés véniels. C'est le cas, par exemple, quand on reçoit la Sainte Communion, pour un malade, quand il reçoit l'extrême onction, et tous les sacrements de la nouvelle. Deuxièmement, en provoquant un mouvement de détestation du péché. Par exemple, en disant l'acte de contrition, en récitant le Confiteor, l'oraison dominicale, c'est-à-dire le Notre Père, en se frappant la poitrine. Toutes ces petites actions agissent pour la rémission des péchés. C'est ce que nous disons dans l'oraison dominicale, dans Notre Père, pardonnez-nous nos offenses. Et enfin, en excitant quelques mouvements de révérence envers Dieu et les choses divines. Donc certaines bénédictions, encore une fois l'aspersion de l'eau bénite au début de la messe chantée le dimanche, toutes les onctions rituelles, la prière dans une église consacrée, les autres rites du même genre concourent à la rémission des péchés véniels. Par exemple, même la simple récitation du chapelet, surtout dans une église, durant un sacrement, l'exercice du chemin de la croix, sont des sacramentaux qui vont enlever une partie des péchés véniels, voire même tous les péchés véniels. Donc, tous ces rites sont cause de la rémission des péchés véniels en tant qu'ils inclinent l'âme à un mouvement de pénitence qui est une détestation implicite ou explicite de ses péchés. La dette de peine est donc remise en proportion de la ferveur plus ou moins grande de l'élan vers Dieu que ces rites peuvent provoquer. Ça va donc dépendre, comme je vous l'ai déjà dit, du degré de charité que nous avons. Si j'ai un très grand regret de la faute commise, eh bien le bon Dieu donnera plus de grâce et enlèvera davantage de peine temporelle. Et si j'ai un très très grand regret de mes péchés, avec un grand degré d'amour du bon Dieu, eh bien, tous mes péchés véniels peuvent sauter, et en même temps peuvent sauter aussi toutes les peines du purgatoire. Article 4, et on voit très bien que saint Thomas va au fond des choses. Le péché véniel peut-il être remis sans que le péché mortel le soit? Bon. Eh bien, la réponse est non. Le péché véniel n'est donc pas remis sans que le péché mortel le soit. Donc, saint Thomas cite saint Matthieu, chapitre 5. Amen, je vous le dis, vous ne sortirez pas de là, c'est-à-dire la prison dans laquelle on est jeté à cause du péché mortel, jusqu'à ce que vous ayez payé jusqu'au dernier sou. C'est le symbole du péché véniel. Donc on ne peut pas enlever simplement les péchés véniels et garder les péchés mortels. Donc les péchés, tous les péchés sautent ensemble, en quelque sorte. Si l'absolution sacerdotale enlève les péchés mortels, l'absolution sacerdotale va bien sûr enlever en même temps les péchés véniels. Celui qui est en état de péché mortel n'a pas la grâce du bon Dieu, donc aucun péché véniel ne lui sera remis tant qu'il garde son âme en état de péché mortel. Bien que la rémission du péché véniel n'exige pas de nouvelle infusion de grâce, elle exige une activité de la grâce qui ne peut se trouver chez celui qui est en état de péché mortel. Donc tant qu'on est en état de péché mortel, eh bien, on ne peut pas ouvrir, on n'ouvre pas la porte de notre âme au bon Dieu, donc les grâces du bon Dieu ne peuvent pas rentrer. Alors, à la question 88, saint Thomas va parler du retour des péchés remis par la pénitence. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a enlevé les péchés par la vertu de pénitence, par le sacrement de pénitence, est-ce que ces péchés peuvent revenir? Donc à la question 88, article 1, première question que se pose saint Thomas, les péchés remis par la pénitence reviennent-ils du fait des péchés postérieurs? Ça veut dire que lorsque j'ai accusé des péchés, ces péchés sont effacés. Mais est-ce que cette charge des péchés passés revient si je commets de nouveau un péché mortel? Eh bien, la réponse est claire. Les dons de Dieu sont sans repentance. Hein? Dieu ne revient jamais sur ses dons et son appel. Donc, les péchés, une fois pardonnés, ne sont pas ramenés par le péché qui suit la pénitence, comme si Dieu se repentait du don qu'il a fait en pardonnant. Quand Dieu pardonne, il pardonne. Quand Dieu pardonne, il oublie. Les péchés étant oubliés, notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas ramener la guilt du péché, des péchés anciens si je commets un autre péché après la confession. Donc saint Thomas répète les mêmes choses, il réexplique les choses qu'il a déjà expliquées plusieurs fois. Dans le péché mortel, il y a deux éléments, l'aversion envers Dieu, la conversion bien créée, rappelez-vous la définition de péché, du péché selon saint Thomas, se détourner de Dieu pour se tourner vers la créature. Donc, deux éléments, l'aversion envers Dieu, la conversion vers la créature. Du côté de la conversion bien créée, à toute forme de créature, le péché postérieur à la pénitence ne fait pas revenir les péchés mortels précédemment abolis. Un péché pardonné et pardonné, définitivement. Alors, ensuite, saint Thomas explique qu'il n'est pas possible d'aucune façon que la souillure et la culpabilité des péchés précédents reviennent en tant qu'elles ont été causées par de tels actes. Mais, dit-il, le mépris de la bonté de Dieu est encore beaucoup plus grand quand, après le pardon du premier péché, il y a rechute. Et d'autant plus grand que le bienfait du pardon est plus grand, supérieur à celui de la simple patience envers le pécheur. Voilà donc comment, voilà la phrase importante, comment la culpabilité des péchés précédemment pardonnés revient avec le péché postérieur, non pas en tant que cette culpabilité serait l'effet des péchés déjà pardonnés, mais en tant qu'elle est l'effet actuel du péché commis en dernier lieu, péché plus grave en raison des péchés précédents. C'est-à-dire que Dieu souffre plus, on peut expliquer comme ça, Dieu souffre plus d'un péché mortel commis de la part d'un fidèle qui avait déjà commis plusieurs péchés mortels de ce genre, qui a été pardonné plusieurs fois, et si on continue de tomber dans ce péché, ben Dieu souffre beaucoup de notre degré d'ingratitude à son égard. Hein? Donc ce n'est pas un retour des péchés pardonnés au sens absolu du mot, mais ces péchés ne reviennent que sous un certain rapport, en tant qu'ils sont virtuellement contenus dans le dernier péché. Ce que la grâce a fait une fois demeure à jamais. Donc la règle, c'est que les dons de Dieu sont sans repentance. Quand Dieu a pardonné, il a pardonné. Mais évidemment, notre Seigneur Jésus-Christ va plus souffrir de voir l'ingratitude de quelqu'un qui a beaucoup reçu de Dieu. De la même façon que Dieu souffre plus du péché d'un prêtre que d'un péché d'un laïc. Dieu souffre plus du péché d'un responsable d'âme que du péché de quelqu'un qui n'a pas charge d'âme à cause des conséquences de ses péchés. Article 2, est-ce que l'ingratitude qui ramène les péchés déjà pardonnés est plus, spécialement selon certains péchés? Alors voilà ce que va répondre saint Thomas. Il y a, dit-il, dans la haine du prochain, une ingratitude spéciale qui ramène les péchés déjà remis, et la même raison vaut pour tous les autres péchés énumérés. Donc il est évident que une fois qu'on a changé de vie, il faut vivre selon ce changement de vie. Tout péché mortel postérieur à la pénitence ramène donc les péchés déjà pardonnés, non pas en tant que tels, c'est ça qu'il faut comprendre, mais les tentations vont revenir au grand galop parce que justement on est imprudent. Cependant, il ne faut pas comprendre cette phase de travers, puisque on a déjà vu auparavant avec les autres articles précédents que lorsque Dieu a fait un don, le don est sans repentance. Donc le péché pardonné, il est pardonné. Hein? Donc, si l'on considère, au contraire, le pénitent qui reçoit le bienfait du pardon, on trouve de son côté un double mouvement du libre arbitre. Il y a d'abord un élan vers Dieu. Cet élan est un acte de foi animé par la charité. Et d'autre part, on trouve la volonté de se soumettre au pouvoir des clés de l'Église par la confession. Celui qui dédaigne de se confesser comme il se l'était proposé, se moque de Dieu. Et donc, chez de tels pécheurs, une ingratitude spéciale ramène les péchés déjà pardonnés. En le sens que le bon Dieu permet que le pécheur retombe dans l'état dans lequel il était auparavant. Quant au péché véniel, il n'implique pas d'ingratitude. Parce qu'en péchant véniellement, l'homme ne se met pas en opposition absolue avec Dieu, mais agit en dehors de lui. Donc c'est pas le péché véniel, même multiplié, même très fréquent, n'enlève pas la grâce sanctifiante. Alors, un bienfait, dit saint Thomas, en conclusion, peut être évalué de deux façons. Ou bien pour sa valeur intrinsèque, et ainsi considérer l'innocence est un bienfait plus grand que la pénitence, seconde planche de salut près de l'offrage, on a déjà vu ça. Ou bien, d'après la situation de celui qui reçoit le bienfait, à ce titre, la grâce faite à celui qui en est le moins digne et la plus grande. Donc, les ingratitudes sont différentes selon le degré de charité que le bon Dieu nous avait donné avant le péché. Alors, à l'article 3 de la question 88, saint Thomas pose la question suivante. Les péchés reviennent-ils avec un égal degré de culpabilité? Donc, voilà ce qu'il répond. Il donne une phrase du Deutéronome. À la mesure du péché et à la mesure des coups. Dit-il, le péché commis après la pénitence ne ramène pas autant de culpabilité qu'il y en avait dans les péchés déjà pardonnés. Parce qu'encore une fois, le bon Dieu ne voit pas simplement le péché, mais voit aussi la pénitence qui a été exercée par la personne qui vient de tomber dans le péché. Donc, par contre, la règle générale est la suivante. L'ingratitude sera d'autant plus grande devant Dieu que le bienfait aura été plus grand. Il y a des gens qui ont reçu plus que d'autres. Et donc, quand ils sont infidèles, bien, ceux qui ont reçu plus que d'autres sont coupables d'une plus grande froideur à l'écart du bon Dieu que ceux qui ont moins reçu. Alors, cette ingratitude qui ramène les péchés est-elle un péché spécial? Donc, saint Thomas dit que tout péché mortel nous rend ingrat envers Dieu. Donc, l'ingratitude n'est pas un péché spécial, c'est un péché général. Donc, quelqu'un qui a obtenu la grâce du pardon de ses péchés par un acte de contrition parfaite, par une bonne confession, eh bien cette personne, si elle retombe dans le péché mortel, commet un péché d'ingratitude à l'égard de Dieu qui est mort pour lui sur la croix. Donc tout péché ne procède pas du mépris de Dieu, bien qu'en tout péché, le mépris de Dieu soit inclus dans celui de ses préceptes. Donc l'ingratitude de celui qui pèche n'est pas un péché spécial de façon habituelle. Parfois, dans certains cas, oui. Il nous reste deux questions à voir pour terminer donc la partie écrite par saint Thomas d'Aquin. Je voudrais terminer ça ce soir pour terminer la tertia pars, et ce qui permettra la prochaine fois d'étudier la dernière partie de la somme, ce qu'on appelle le supplément. Je vous l'ai déjà écrit, je vous ai expliqué, qui a été écrit après la mort de saint Thomas, donc après 1274, par le principal secrétaire de saint Thomas, parce qu'il en avait plusieurs, frère Réginald, à partir de textes antérieurs de saint Thomas d'Aquin, surtout dans ses commentaires sur les sentences qu'il avait données au début de sa carrière théologique. Question 89 de la tertia pars, la reviviscence des vertus par la pénitence. Est-ce que des vertus qui ont été tuées par le péché peuvent revivre? Donc, article 1, par la pénitence, nos vertus nous sont-elles rendues? Question intéressante. Voilà ce que dit saint Thomas. Par la pénitence, toutes les vertus nous sont rendues. La porte est de nouveau ouverte, si vous voulez, et le bon Dieu peut rentrer dans notre âme. La rémission de péché ne se fait pas sans l'infusion de la grâce. D'où il suit que la grâce est réintroduite en notre âme par la pénitence. Or, de cette grâce procèdent toutes les vertus surnaturelles, comme les facultés de l'âme découlent de son essence. Il faut donc admettre que toutes les vertus nous sont rendues par la pénitence. Ceci dit, attention, ça ne veut pas dire que toutes les bonnes choses que nous avions faites dans le passé nous sont toutes rendues au même degré. Parce qu'il y a des choses qui ne nous seront rendues qu'en partie. Encore une fois, dépend du degré de charité que nous avons. Les mérites, par exemple, les mérites passés. J'ai commis beaucoup de bonnes choses pour le bon Dieu. J'ai acquis un certain nombre de mérites au cours des années. Et malheureusement, un jour, j'ai le malheur de commettre un péché mortel. Le péché mortel détruit l'union à Dieu, donc détruit tous les mérites. Il n'y a plus de mérite. Dans une âme en état de péché mortel, les mérites, même s'il avait un très haut degré de mérite, si cette personne avait un haut degré de mérite à cause de bonnes actions faites dans le passé, eh bien, ce degré de mérite disparaît complètement et plus rien. Plus de mérite. La confession arrive, la grâce sanctifiante est rendue à cette âme, mais ça ne veut pas dire qu'avec la grâce, la grâce sanctifiante est rendue le même degré de mérite que nous avions auparavant. Alors, toutes les vertus nous sont rendues par la pénitence, mais pas forcément les mérites. En tant qu'il est sous l'impulsion de la charité et des autres vertus, le pénitent pratique la vertu avec plaisir et sans difficulté. C'est ainsi que l'homme vertueux peut accidentellement, éprouver quelques difficultés à pratiquer la vertu, quand par exemple il est somnolent ou souffre de quelque indisposition corporelle. Donc ne jamais se décourager. Jamais se décourager parce que le bon Dieu donne les grâces dont nous avons besoin, au jour le jour, il ne les donne pas à l'avance. Article 2, par la pénitence, les vertus nous sont-elles rendues au même degré qu'avant? J'ai déjà un petit peu répondu à cette question en donnant l'exemple des mérites. Voilà ce que dit saint Thomas. On se relève donc toujours avec un moindre degré de vertu, parce que on a descendu la côte, maintenant il faut remonter. Le mouvement du libre arbitre qui existe dans la justification de l'impie est l'ultime disposition à la réception de la grâce. Donc, selon que dans la pénitence, le mouvement du libre arbitre est plus intense ou plus faible, le pénitent reçoit une grâce plus ou moins grande. Donc ça dépend de deux choses. D'une part, la miséricorde du bon Dieu, qui est libre de ses grâces, et d'autre part, du degré d'utilisation de notre libre arbitre. Si on a un grand, grand amour du bon Dieu, on peut recevoir plus de mérite du passé. Plus de mérite du passé peut revenir. Il s'ensuit, dit saint Thomas, que le pénitent se relève quelquefois avec une grâce plus grande, et d'autre part, avec une grâce égale ou même inférieure, il en va de même des vertus qui découlent de la grâce. Et on peut rajouter, il en va de même des conséquences, si vous voulez, de nos bonnes actions du passé, les mérites qui vont nous être rendus en partie ou de façon égale. Et dans certains cas, si c'est une très très bonne confession, on peut non seulement récupérer tous les mérites qu'on avait auparavant, mais même en récupérer davantage. Le fait d'être déchu de l'amour de Dieu, dit saint Thomas, en péchant, ne sert pas au bien de ceux qui aiment Dieu. On le voit bien par ceux qui tombent et ne se relèvent plus, ou se relèvent que pour retomber. Cette chute ne sert qu'à ceux qui, selon le dessein divin, sont appelés à la sainteté, c'est-à-dire aux prédestinés qui, chaque fois qu'ils tombent, finissent par se relever. Leur chute, dans ce cas-là, leur devient donc avantageuse, non pas parce qu'ils se relèvent toujours avec une grâce plus grande, mais parce que ils ont une grâce plus durable. C'est-à-dire que le bon Dieu utilise les chutes pour nous maintenir dans la vertu d'humilité. Et la vertu d'humilité, c'est une bonne chose. La chute est mauvaise, mais la vertu d'humilité qui est donnée dans l'âme par la chute est une bonne chose. Leur chute leur est profitable parce qu'ils se relèvent plus humbles et deviennent mieux instruits. C'est comme dans le baptême, pour les adultes, qui vont recevoir une grâce plus ou moins grande selon leur disposition. Donc quelqu'un qui est baptisé en tant qu'adulte avec un grand, grand degré d'amour du bon Dieu va recevoir plus de grâce que quelqu'un qui est baptisé avec moins de degrés d'amour de Dieu. Il y a cependant, dit saint Thomas, sur l'abondance de grâce, si l'on considère la cause même de la grâce, la miséricorde gratuite de Dieu qui accorde le bienfait du pardon, miséricorde d'autant plus grande qu'il s'agit d'un plus grand pécheur. Il arrive ainsi que des âmes ayant beaucoup péché ont davantage de contrition, obtiennent ainsi une plus grande abondance de grâce et de vertu, comme on le voit dans le cas de Sainte Marie-Madeleine. Il y a des saints qui sont allés jusqu'à dire que Sainte Marie-Madeleine ne serait pas devenue si sainte si elle n'avait pas autant péché dans le passé. Dans le sens qu'elle a beaucoup péché dans le passé en tant que femme publique, et justement, comme elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le bon Dieu, parce qu'elle a beaucoup aimé, il sera beaucoup pardonné, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, les péchés de la vie passée de Sainte Marie-Madeleine ne sont pas une bonne chose, mais l'humiliation provoquée par ces péchés et le degré d'amour que le bon Dieu a mis dans l'âme de Sainte Marie-Madeleine, après ses péchés, et quelque chose de bon, bien sûr. Alors, saint Thomas continue d'explorer la question, en se posant la question de savoir si par la pénitence, l'homme retrouve la même dignité. C'est l'article 3, la question 89. Alors, il cite d'abord un décret du Concile espagnol de Lérida. Ceux qui attachaient au service du Saint-Autel, les prêtres, ont par surprise succombé lamentablement à la fragilité de la chair et par la miséricorde du Seigneur ont fait une digne pénitence, peuvent bien réoccuper leur charge, mais à la condition de ne pouvoir être désormais promus à de plus hauts offices. Alors, pour répondre à la question, par la pénitence, l'homme retrouve-t-il la même dignité? Voilà ce que dit saint Thomas. Il donne encore un autre décret de saint Grégoire. Les clercs contumaces doivent être corrigés par leurs évêques autant que le rang de leur dignité le permet. De telle façon qu'une fois corrigés par la pénitence, ils reçoivent de nouveau leur grade hiérarchique et leur dignité. Pourquoi ? Parce que le péché fait perdre à l'homme une double dignité, d'une part celle qu'il a par rapport à Dieu, et d'autre part celle qu'il a par rapport à l'Église. En tant que le prêtre qui pêche, qui offense le bon Dieu, offense Dieu comme représentant ministre de Dieu. Et donc il y a un degré de gravité spéciale dans le péché du prêtre à cause du scandale qu'il donne. Donc, par rapport à Dieu, il perd une double dignité. D'une part, sa dignité principale qui le met au nombre de fils de Dieu, par la grâce. Il récupère cette dignité par la pénitence, comme l'indique la parabole du fils prodigue, où le Père fait rendre au pénitent sa première robe, son anneau et ses chaussures. Mais, dit saint Thomas, le pécheur, il parle ici du pécheur clair, du prêtre, le pécheur perd aussi une dignité secondaire, l'innocence, dont le fils aîné se glorifie en disant « Depuis tant d'années que je vous sers, je n'ai jamais violé votre commandement. » C'est là une dignité que le pénitent ne peut recouvrer, mais il peut retrouver parfois quelque chose de meilleur. Car ceux qui réfléchissent aux égarements qui les ont éloignés de Dieu compensent leur perte de précédence par les gains qui suivent leur conversion. À leur sujet, il y a une plus grande joie dans le ciel parce que le général dans le combat aime le soldat qui, après sa suite, revient charger courageusement l'ennemi plus que celui qui, n'ayant jamais tourné le dos, n'a jamais fait non plus un acte signalé de courage. Ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup de saint Thomas d'Aquin, que je cite souvent en sermon ou au confessionnal. Donc, Dieu a plus d'amour, si vous voulez, pour un soldat qui tombe souvent, mais qui se relève généreusement après chaque chute, que pour un soldat qui tombe pratiquement jamais. Et c'est exactement ce que dit saint Thomas. Donc, Dieu aime plus le soldat qui, après sa fuite, revient charger courageusement l'ennemi, plus que celui qui n'a jamais fait un acte signalé de courage, bien qu'en n'ayant jamais tourné le dos à l'ennemi. Mais c'est une phrase importante qui nous fait comprendre qu'il ne faut jamais se décourager. Donc, quant à la dignité ecclésiastique, donc qui dépend du pouvoir de juridiction, l'homme, dans bien des cas, l'homme la perd par le péché, en se rendant indigne d'accomplir les actes qui appartiennent à l'exercice de cette dignité. On parle des prêtres, là. Il est en effet interdit aux pécheurs de la récupérer dans les cas suivants, quand ils ne font pas pénitence. Ceux qui ne s'amendent pas du vice de leur corruption ne doivent recouvrer ni leur grade honorifique, ni la grâce de la communion. Il est évident qu'un prêtre qui ne veut pas changer de vie, qui vit dans le péché, qui ne veut pas changer de vie, ben, ne peut plus exercer comme prêtre, c'est absolument évident. Bon. Deuxième obstacle, s'ils sont négligents dans leur pénitence. Quand ces clercs pénitents, disent les canons, ne montrent aucune humble componction, aucune assiduité à la prière, aucune pratique de jeûne et de pieuse lecture, nous pouvons prévoir avec quelle négligence ils continueraient de vivre s'il leur était permis de recouvrer leurs anciennes dignités. Enfin, quand le clerc a commis un péché auquel est annexée une irrégularité. Donc il faut qu'il soit d'abord relevé de cette irrégularité. Et enfin, quand il y a scandale. Quand un scandale a été donné, il faut réparer le scandale. Donc là, il y a des textes que cite saint Thomas d'Aquin. Il cite Rabban mort. ceux qui auront été surpris ou arrêtés en flagrant délit de parjure, de vol ou de fornication ou d'autres crimes doivent, d'après les cinq canons, être déclarés déchus de leur grade hiérarchique parce que c'est un scandale pour le peuple de Dieu d'avoir de telles personnes à sa tête. Quant à ceux qui s'accusent aux prêtres de tels péchés commis en secret, s'ils ont soin de se purifier par les jeûnes, les aumônes, les veilles et les saints exercices de la liturgie, on doit leur promettre que, même en gardant leur place dans la hiérarchie, ils peuvent espérer leur pardon de la miséricorde de Dieu. Si les crimes reprochés n'ont pas été établis par une sentence judiciaire, ne sont pas notoires de quelque autre façon, dit la décrétale, les coupables, sauf les homicides, les meurtriers, ne peuvent pas, après leur pénitence, être écartés de l'exercice des saints ordres déjà reçus de leur réception. En fait, dans la pratique, c'est l'évêque, en cas d'un prêtre qui a commis des gros péchés, si ces péchés sont publics, c'est le prêtre qui, l'évêque, qui va décider si le prêtre en question a fait suffisamment pénitence pour pouvoir reprendre sa place dans la hiérarchie ou non, selon les cas, au cas par cas. Alors, il y a un bel exemple ici qui est donné par saint Thomas. En fait, il cite un texte de saint Augustin. Le saint roi David, lui aussi, a fait pénitence de crimes dignes de mort, et cependant il est resté sur son trône. De même, le bienheureux Pierre est demeuré apôtre, bien qu'avec des larmes très amères, il ait fait pénitence pour avoir renié le Seigneur. Belle phrase. Article 4 de la question 89. Les œuvres vertueuses sont-elles frappées de mort par les péchés qui les a suivies? Donc, l'effet des œuvres vertueuses faites en état de charité de nous conduire à la vie éternelle, ce qu'on appelle les mérites. Bon. Les mérites peuvent être utilisés par une âme dans la mesure où cette âme est en état de grâce. C'est de cette façon, cet effet, dit saint Thomas, est empêché par le péché mortel qui, commis après les œuvres, nous enlève la grâce. C'est de cette façon que les œuvres vertueuses faites en état de charité sont dites mortifiées par le péché mortel qui les suit. Ça veut dire que tous les mérites qu'on avait acquis par les bonnes actions qu'on a commis en état de grâce, une fois qu'on est en état de péché mortel, ces mérites disparaissent. D'accord ? Elles sont mortifiées, ces œuvres vertueuses qui étaient faites en état de charité, sont mortifiées en tant que l'homme est empêché d'en recevoir la récompense. Dieu, en quelque sorte, jette un voile sur toutes les bonnes actions du passé, parce que le péché mortel subséquent va empêcher le bon Dieu de voir toutes les bonnes actions précédentes. C'est pour ça qu'il est tellement important de rester bien en état de grâce. Article 5. Les œuvres frappées de mort par le péché revivent-elles par la pénitence? Bon, la pénitence revivifie donc les œuvres méritoires antérieures au péché. Bon. Ça va dépendre évidemment du degré de charité. Hein. Donc la pénitence revivifie donc, dit saint Thomas, les œuvres méritoires antérieures au péché. Ensuite, il va expliquer. Alors, si elles n'ont plus d'efficacité de conduire à la vie éternelle, celui qui les a faites, cela provient de l'obstacle posé par le péché qui est survenu et qui a rendu cet homme indigne de la vie éternelle. Or, cet empêchement est enlevé par la pénitence en tant qu'elle remet les péchés. Il reste donc que les œuvres d'abord mortifiées recouvrent par la pénitence l'efficacité de conduire leur auteur à la vie éternelle. C'est ainsi qu'elles revivent. Il est donc évident que les œuvres mortifiées revivent par la pénitence. Cependant, les mérites passés ne vont pas forcément tous être récupérés de la même façon. Ça va dépendre de la volonté du bon Dieu et du degré de charité de la personne. Donc, celui qui se relève par la pénitence dans un degré de charité inférieur au précédent recevra la récompense essentielle selon la mesure de charité où se trouvera à sa mort. Donc s'il a un grand degré de charité au moment de la mort, il reçoit beaucoup de grâce. Donc je répète cette belle phrase de saint Thomas, celui qui se relève par la pénitence dans un degré de charité inférieur au précédent recevra la récompense essentielle selon la mesure de charité où se trouvera à sa mort. C'est-à-dire que le degré de gloire que nous aurons au ciel dépendra du degré de charité au moment de notre mort. Et le degré de charité au moment de notre mort, la plupart du temps, dépend du degré de charité que nous avons eu durant notre vie. Alors, saint Thomas continue. Question 89, article 6. Les œuvres mortes, c'est-à-dire faites sans la charité, sont-elles vivifiées par la pénitence? Et il va répondre en citant saint Paul, 1 Corinthiens chapitre 13. « Quand j'aurai distribué tout mon bien pour nourrir les pauvres, quand j'aurai livré mon corps au feu, si je n'ai pas la charité, tout cela ne me sert de rien. Cette parole ne serait plus vraie si ses œuvres étaient vivifiées au moins par une pénitence postérieure. La pénitence ne vivifie donc pas les œuvres mortes. Quand saint Paul dit « Même si j'ai distribué mon bien pour nourrir les pauvres ou livré mon cœur au feu, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » Cette charité dont il parle, c'est quoi? C'est l'état de grâce. Donc, si je ne suis pas en état de grâce, toutes les œuvres extraordinaires que je peux faire pour le bon Dieu, si je ne suis pas en état de grâce, ne me servent à rien. Pourquoi? Parce que l'état de grâce qui me manque ferme la porte de la miséricorde du bon Dieu sur mon âme. Alors, ces œuvres sont dites mortes. Alors, je reprends le texte de saint Thomas parce qu'il fait une distinction qui est importante. Il dit, une œuvre peut être dite morte, une œuvre spirituelle, de deux façons. En raison de ses effets, parce qu'elle est cause de mort. Les œuvres de péché sont dites mortes dans l'Épître aux Hébreux. Le sang du Christ ne purifiera nos consciences des œuvres mortes. Les œuvres sont encore dites mortes en raison de ce qui leur manque, parce qu'elles n'ont pas cette vie spirituelle qui vient de la charité, par laquelle l'âme est unie à Dieu, recevant de Dieu la vie comme le corps la reçoit de l'âme. C'est de cette façon que la foi sans la charité est dit morte selon saint Jacques. La foi sans les œuvres est morte. C'est aussi de cette façon qu'on appelle mortes toutes les œuvres bonnes par leur genre, qui sont faites sans la charité, en tant qu'elles ne procèdent pas du principe de vie. Dire une œuvre, même bonne en tant que telle, qui est faite sans l'état de grâce, ne vaut plus rien devant Dieu. Cette branche, si vous voulez, est comme morte, parce qu'elle n'est plus reliée au tronc, elle ne reçoit plus la sève du tronc. Il est donc impossible que les œuvres mortes deviennent vivantes par la pénitence. C'est pour ça qu'il faut rester à l'état de grâce. Et ne pas rester longtemps en état de péché mortel, et si on a le malheur de commettre un péché mortel, tout de suite, retrouver l'état de grâce au plus vite par la confession. Donc la parole de saint Paul, dit saint Thomas, « Quand je livrerai mon corps au feu, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien », cette parole doit s'entendre en ce sens que cela ne sert de rien pour l'obtention du royaume des cieux, mais non pas pour un adoucissement de la damnation finale. Donc Dieu n'oublie jamais les œuvres qui ont été faites. Même s'il sait très bien qu'il ne peut pas récompenser quelqu'un parce que cette personne mourra en état de péché mortel, Dieu va quand même tenir compte des œuvres naturellement bonnes faites dans le passé de la vie de cet homme pour un adoucissement de la damnation finale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en bon français que, prenez un cas par exemple d'un homme qui vit dans le péché jusqu'au cou, mais qui a une grosse fortune, un millionnaire par exemple, qui a une grosse fortune, et qui va utiliser une partie de sa grosse fortune, même si c'est pour des raisons purement matérielles, pour éviter de payer trop d'impôts par exemple, qui va utiliser cette fortune, une partie de sa fortune, pour faire du bien par une association qu'il a en Afrique, pour aider les pauvres miséreux d'Afrique par exemple. Eh bien, le bon Dieu va en tenir compte, parce qu'il a promis qu'il ne laissera pas un verre d'eau donné à un pauvre sans récompense. Et donc même si ce millionnaire meurt hélas dans le péché mortel, le bon Dieu ne va pas oublier ce bien naturel qui a été fait par son association, et donc va utiliser, dit saint Thomas, ces choses naturelles pour un adoucissement de la damnation finale. Mais malheureusement, c'est pas ça qui va sauver l'âme de ce millionnaire s'il meurt en état de péché mortel. Alors voyons maintenant la dernière question traitée par saint Thomas, les parties de la pénitence en général. Donc ce sont les trois derniers articles de la Somme qui ont été écrits par saint Thomas avant sa mort. Donc il est mort en 1274 en allant au concile de Lyon. Vous devez retrouver d'ailleurs saint Bonaventure, qui est lui aussi mort en allant au concile de Lyon la même année, en 1274. Et donc on arrive à la fin de la partie de la Somme théologique écrite par saint Thomas d'Aquin. Mais c'est trois premiers articles, et vraisemblablement le quatrième article de cette question 90 n'est déjà plus de saint Thomas. Ou il n'y a que le début, on ne sait pas très bien. Alors, voyons ces derniers articles. La pénitence, donc question 90, des parties de la pénitence en général. Donc il se pose la question de savoir si cette sacrement de pénitence, la pénitence requise pour la confession, a différentes parties. Enfin, déjà on peut parler en fait. Voilà ce qu'il dit, la perfection de la pénitence dans son intégrité requiert plusieurs éléments, ce qu'on appelle la matière du sacrement, la contrition, la confession, la satisfaction. La pénitence a donc des parties, les trois grandes parties. La contrition, le regret de ses péchés, joint au ferme propos de ne pas recommencer, d'éviter des occasions prochaines volontaires de péché mortel, c'est ce qu'on appelle la contrition. Confession, c'est l'accusation, et la satisfaction, c'est la réparation. D'une part, la réparation sacramentelle, c'est-à-dire la petite pénitence donnée par le prêtre confessionnal, et d'autre part, la réparation extra-sacramentelle qui doit être faite en dehors de la confession, notamment pour rétablir la vertu de justice. Par exemple, si j'ai menti contre le prochain, il faut rétablir la vérité. Si j'ai volé le prochain, il faut rendre le produit du vol, etc. Donc, la perfection de la pénitence requiert plusieurs actes humains, la contrition, la confession, l'accusation, la satisfaction, la réparation. Il s'ensuit donc que le sacrement de pénitence a bien des parties. Alors, il ne développe pas, parce qu'il le dit d'ailleurs expressément, nous verrons cela plus loin. Donc, il avait l'intention d'expliquer tout ça à fond. Donc, vraisemblablement, il y avait des questions qui avaient déjà été préparées par saint Thomas d'Aquin, au moins au niveau du plan, pour la dernière partie de la somme. C'est pour cela, d'ailleurs, que le secrétaire de saint Thomas d'Aquin, le frère original, a pu continuer la somme à partir, justement, du plan qui avait été fait par saint Thomas, parce qu'il avait ce plan. Puisque c'était lui le secrétaire en général de saint Thomas d'Aquin, donc il connaissait ce plan, il a suivi ce plan pour terminer l'œuvre de saint Thomas d'Aquin à partir des textes plus anciens de saint Thomas, des textes de jeunesse. Pour cela que l'autorité, la dernière partie de la somme qu'on appelle le supplément, donc qui n'a pas été écrit du vivant de saint Thomas, n'a pas évidemment l'autorité de la somme elle-même. Et on voit très bien, moi j'ai toujours trouvé ça extraordinaire, là je l'ai encore plus senti en vous expliquant ces dernières parties de la Somme, dans ces derniers articles de la Somme, on le sent bien dans ce traité de la pénitence, on sent que saint Thomas d'Aquin est au sommet de sa sainteté, ça se sent très bien, il est au sommet de sa science théologique, au sommet de sa sainteté, et on le voit par la beauté et la profondeur spirituelle des réponses théologiques qu'il donne aux questions qui se posent dans la Somme. Alors, article 2 de la question 90 du nombre des parties de la pénitence. Donc, on enseigne spécialement au sacrement de pénitence des parties selon les actes du pénitent qui sont la matière de ce sacrement, c'est-à-dire la contrition, l'accusation, la confession et la réparation. Alors, il va expliquer, voilà donc ce qui est requis de la part du pénitent. D'abord, premièrement, qu'il veuille donner compensation, cette volonté c'est la contrition, qu'il regrette ses péchés et qu'il souhaite réparer ses péchés. Deuxièmement, qu'il se soumette au jugement du prêtre tenant la place de Dieu, c'est ce qui se fait par la confession, l'accusation. Et troisièmement, qu'il donne la compensation fixée par la sentence du ministre de Dieu, c'est ce qui se fait dans la satisfaction ou la réparation. C'est donc ainsi qu'on distingue trois parties dans la pénitence, la contrition, l'accusation, la réparation. Et donc, s'il n'y a pas ces trois parties, si le prêtre ne constate pas dans l'âme de la personne qui vient se confesser à lui, qui accuse des péchés mortels, une contrition réelle, c'est-à-dire pas simplement une douleur, la douleur ne suffit pas simplement la douleur des péchés commis, mais en même temps un ferme regret pratique des péchés commis, ça veut dire un regret qui contient en lui-même le désir pratique de prendre des moyens pour ne pas retomber, c'est-à-dire d'éviter les occasions prochaines volontaires de péché mortel. S'il ne trouve pas dans l'âme de ce pénitent l'accusation, c'est-à-dire qu'il constate qu'il y a des mensonges, des choses qui sont mal expliquées volontairement et qu'il n'y a pas de désir de réparer, l'absolution est nulle. Le prêtre ne doit pas donner l'absolution. D'accord ? Alors, voyons l'article 3 de la question 90 de la tertiaire part, c'est la nature des parties de la pénitence. Donc, on appelle partie intégrante, dit saint Thomas, celle qui constitue le tout dans la perfection de son intégrité. Alors, ce sont bien les trois parties énumérées qui achèvent la perfection de la pénitence, dont elles sont conséquentes les parties. Donc, il répète accusation, réparation et contrition d'abord, bien sûr. Il est donc évident que les parties de la pénitence soient des parties intégrantes qui, tout ensemble, doivent réaliser le tout sans que chacune d'elles en ait toute la puissance active et toute l'essence. C'est-à-dire que s'il y a simplement l'accusation ou simplement la contrition et qu'il manque, par exemple, la réparation, eh bien, les conditions ne sont pas là pour recevoir l'absolution. Il faut les trois choses. Pourquoi ? Parce que ces parties intégrantes permettent la totalité de la perfection du tout. Et donc, il faut à la fois l'accusation des péchés, il faut à la fois la contrition, c'est le plus important, et il faut la réparation. Donc, j'explique souvent aux fidèles que dans certains cas, l'Église peut accorder des dispenses d'accusation pour des gens qui ne peuvent plus exprimer leurs péchés parce qu'il n'y a pas, par exemple, de moyen pour le prêtre d'entendre la confession de la personne qui est en train de mourir parce qu'il y a plein de monde autour, par exemple, il ne peut pas exiger une confession générale, une confession publique. Eh bien, dans ce cas-là, il y a une dispense d'accusation parce que le prêtre ne parle pas la langue. Là, il comprend un peu ce qu'il peut, il n'a pas tout compris, mais il y a le désir de tout accuser, donc l'absolution est valide. On peut donner, dans certains cas aussi, des dispenses de réparation, mais jamais des dispenses de contrition. Pas de contrition, au moins parfaite, avec jointe à l'absolution sacerdotale, pas de pénitence, pas de sacrement de pénitence, pas de confession. Alors, nous avons donc trois espèces de péchés. Le péché qui... je reprends la phrase de saint Thomas, le péché, parce qu'il est un mal, peut s'achever dans le désordre d'un seul des éléments de nos opérations. C'est-à-dire que nous avons trois espèces de péchés. Le péché qui s'achève dans le cœur, le péché qui est commis par le cœur et la bouche, et celui qui concourt, auquel concourt le cœur, la bouche et l'action extérieure. C'est le plus grave. D'accord ? Alors ici, vraisemblablement, s'arrête la rédaction de saint Thomas. La mort, je l'ai dit, l'ayant empêché de continuer. Il semble que le dernier article qui est incomplet, que le dernier article qui est plus ou moins incomplet, soit déjà un article écrit par le frère Réginald. Donc l'article 4, vraisemblablement ce qui a dû se passer, c'est que saint Thomas avait dû donner déjà le titre de l'article. Est-ce qu'il convient de diviser la pénitence en pénitence d'avant le baptême, pénitence des péchés mortels et pénitence des péchés véniels, et qu'il est mort à ce moment-là. Et donc il n'a pas pu terminer. Alors je vous donne le dernier texte de saint Thomas. Je vais vous lire tout le corps de cet article, parce que c'est vraiment la conclusion de la somme théologique écrite par saint Thomas. Il va dire: la division de saint Augustin est une division de la pénitence en tant qu'elle est vertu. Or, on doit considérer que chaque vertu règle son opération sur les exigences de la circonstance de temps comme les autres circonstances. Il s'ensuit que l'acte de la vertu de pénitence se conforme maintenant aux exigences de la loi nouvelle. Bon. Puis il dit: le pénitent peut vouloir trois sortes de changements de vie. Premièrement, la renaissance à une vie nouvelle par le baptême. C'est là l'objet de la pénitence avant le baptême. Deuxièmement, la réforme de sa vie passée déjà corrompue. C'est ce que cherche la pénitence des péchés mortels commis après le baptême. Troisièmement, le perfectionnement de son opération vitale. Et c'est ce que poursuit la pénitence des péchés véniels qui sont remis par un acte fervent de charité. Hein? La pénitence donc qui efface les péchés mortels efface aussi les véniels, mais la réciproque n'est pas vraie. La pénitence qui efface les péchés véniels ne va pas forcément effacer les péchés mortels. C'est pour ça, ces deux pénitences se distinguent comme le parfait et l'imparfait. Alors saint Thomas, malheureusement il n'a pas eu le temps de développer, dit, c'est une des conclusions de saint Thomas avant sa mort: avant le baptême, il n'y a pas de péché véniel sans péché mortel. C'est une partie importante de l'enseignement de saint Thomas, que le premier péché qui nous coupe de Dieu est automatiquement le péché mortel. Et saint Thomas pensait aussi, même si c'est difficile à comprendre, que le premier péché qui nous coupe du bon Dieu, même pour un enfant, est un péché mortel. Puisque le péché véniel ne coupe pas de Dieu. Et on dit, c'est vrai que l'ange gardien pleure toutes les larmes de son corps, comme on dit vulgairement, au moment du premier péché mortel de son protégé. Premier péché mortel d'un enfant. C'est grave. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois en tant que prêtre de me rendre compte, en écoutant les confessions des petits, de me rendre compte que j'ai devant moi un enfant qui vient de commettre son premier péché mortel. C'est vraiment très triste. Donc voilà, nous avons terminé, Dieu aidant, la somme théologique de saint Thomas d'Aquin écrite par lui. Donc nous avons vu toute la première partie de la somme, première partie, deuxième partie, deuxième partie, deuxième partie, troisième partie. Et la prochaine fois, si Dieu veut, donc nous étudierons donc la dernière partie de la somme qui n'est pas écrite par saint Thomas d'Aquin directement parlant. Je vous ai dit, ce sont des textes qui ont été faits par qui ont été écrits par le secrétaire de saint Thomas d'Aquin, le frère Réginald, ce qu'on appelle le supplément. Donc dans ce supplément, le supplément contient 99 questions. Il va d'abord, le frère Réginald va d'abord terminer la pénitence. Donc c'est les 28 premières questions. Puis il y aura un petit traité assez court sur l'extrême onction, questions 29 à 33. Sur le sacrement de l'ordre, questions 34 à 40. Le mariage, questions 41 à 68. Et la couture, si vous voulez, la conclusion générale de l'œuvre de saint Thomas dans sa somme théologique, le traité sur les fins dernières, questions 69 à 99. Voilà, nous allons terminer par une petite prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous.